Avant la prière, comme introduction, lisons dans Colossiens 2, du verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Puis-je demander de vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Merci. Colossiens 2, 13. Vous aussi qui étiez autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a aussi fait revivre ensemble avec lui, en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions, en ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Puis, ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement exposées au carcan, triomphant d'elles en lui par la croix. Adorons. Seigneur notre Dieu, nous ne trouvons pas les mots pour exprimer ce que nous ressentons. Bien-aimé Seigneur, ça ce sont des expériences vécues, expérimentées que nous pouvons témoigner. Nous te prions, Dieu fidèle, pour ta présence, pour la conduite de ton esprit, de ton Saint-Esprit. Agis de manière surnaturelle au milieu de nous. Rends ta parole vivante et révèle-nous en cette réunion ta parole. Montre-nous ta volonté. Oui, révèle-toi à nous comme le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Dieu fidèle, tu as mis en nous le désir de t'expérimenter comme nos frères et sœurs t'ont expérimenté au commencement de la nouvelle alliance. Dieu fidèle, prends celui qui parle et ceux qui écoutent. Prends-nous tous ici, sous ta protection et ton abri. Nous plaçons cette réunion consciemment sous la couverture du sang de l'agneau. Satan a perdu tout droit. Il est vaincu, désarmé et exposé au carcan. Dieu fidèle, je te remercie de ce que tu n'as pas jeté l'acte de condamnation dans une poubelle, mais tu l'as cloué sur la croix. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, oh louange à toi. Cet acte ne peut plus être récupéré. La dette est payée, le péché est pardonné. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Alléluia. Que la parole de la croix puisse être nouvellement vivante sous nos yeux. Oui, que nous puissions expérimenter encore nouvellement Golgotha. Seigneur bien-aimé, nous te prions tout particulièrement maintenant pour ta présence. Oui, Sauveur fidèle, aie ton chemin et que ta volonté soit faite. Oui, avec nous en cette heure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais aujourd'hui spécialement parler du nom du Seigneur, de la manière dont il s'est révélé et a fait connaître aux siens le plan qu'il s'est fixé et qu'il mène à bien. Permettez-moi de lire dans Exode 33, cette parole connue du verset 18. Exode 33, verset 18. Et lorsque Moïse dit « Laisse-moi contempler ta gloire », l'Éternel répondit « Je ferai passer devant tes yeux toute ma beauté. » Et je proclamerai à haute voix devant toi le nom de l'Éternel. À savoir que je fais preuve de grâce à qui je fais grâce. Et je montre ma miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. Nous voyons que Dieu le Seigneur, le Seigneur Dieu avait des personnes sur terre à qui il pouvait se révéler. Et ce sont les véritables témoins de Dieu. Ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, ceux qui ont assisté à ce que Dieu faisait, qui étaient présents alors que Dieu faisait quelque chose. Et ces hommes, ceux qui sont apparus comme témoins, c'est à eux que nous accordons notre foi. C'est à leur témoignage que nous accordons notre foi. Et nous ne laissons rien ni personne ébranler cette foi. Au contraire, cela nous rend plus reconnaissants car nous réalisons que ce n'est que grâce que nous pouvons croire. Ici, le Seigneur a proclamé son nom qu'il a révélé dans le chapitre 6 d'Exode. Exode, chapitre 6, versets 2 et 3. Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Faisons attention, s'il vous plaît. Soyez attentifs à cette formulation. Je suis. Nous allons plusieurs fois revenir au cours de notre observation à cela. Ici, pour la première fois, c'est écrit le mot Yahvé. Je suis l'Éternel. Je suis Yahvé. Celui qui est éternel, qui existe en lui-même. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham. Verset 3 maintenant, Isaac et Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas révélé à eux sous mon nom de l'Éternel Dieu, donc Elohim Yahvé en hébreu, c'est écrit ici, Elohim Yahvé. Je ne me suis pas fait connaître à eux ainsi. Aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à ce que nous ayons un aperçu biblique de la manière dont le Seigneur s'est révélé tout au long de l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament. Je voudrais lire dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Je voudrais lire à partir du verset 4. Du verset 4 au verset 6. Lorsque l'Éternel vit qu'il s'approchait pour voir. Dieu lui cria du haut du buisson. Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Il dit alors, ne t'approche pas, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Puis il poursuivit, je suis. S'il vous plaît, faites attention, soyez attentifs à ces deux mots. Puis il poursuivit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila le visage, car il craignait de regarder Dieu. Ici, Dieu n'était pas dans sa plénitude originelle d'esprit et de lumière, mais dans la manifestation visible, l'apparition visible en tant que le Seigneur Dieu. Il a paru ainsi et a parlé à son prophète Moïse. Je suis tellement reconnaissant à Dieu de s'être révélé sur terre, qu'il y ait eu des hommes qui l'ont vu, sous cette forme, qui l'ont entendu et qui en ont fait l'expérience. Je suis également reconnaissant à Dieu de nous permettre de le voir aujourd'hui à travers les yeux spirituels de notre cœur. Alors, donc en tant que le même, en tant que celui qui avait parlé à Abraham, Isaac et Jacob, qui avait parlé à Moïse et à tous les prophètes, qui s'est révélé à eux et qui leur a laissé annoncer son plan de salut, qui ensuite trouve sa réalisation dans le Nouveau Testament. Vous remarquez, après avoir écouté les démonstrations d'un athée sur Dieu, sur le Christ, sur la parole de Dieu, d'avoir lu concernant ces choses d'un athée, j'ai été ému intérieurement. Ça fait déjà mal, c'est une douleur. Et puis on voit ceux qui ont expérimenté Dieu, qui ont entendu sa voix, qui nous ont laissé un vrai témoignage. Je lis de Exode chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Exode 3, verset 13. Alors Moïse dit à Dieu, mais quand je viendrai dire aux Israélites, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me demanderont quel est son nom, que leur répondrai-je? Une très bonne question. Que répondrai-je quand ils me demanderont quel est son nom? Le verset 14. Dieu dit alors à Moïse, je suis le je suis. Puis il poursuivit, tu diras donc aux Israélites, c'est le je suis qui m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, verset 15, tu diras donc aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement et ma désignation de descendance en descendance. Faisons référence avec cette désignation, avec ce terme « je suis », le « je suis ». La fin du verset 15, c'est là mon nom éternellement et ma désignation de descendance en descendance. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Mais ici, il se fait connaître avec le terme « je suis ». Le « je suis ». Passons à Juges, au chapitre 13. Juges, chapitre 13. Où l'Éternel Dieu apparaît sous la forme d'un homme. Quand la naissance de Simson a été annoncée, nous lisons ici, dans Juges, le chapitre 13, du verset 6. La femme alla raconter à son mari, « Un homme de Dieu est venu me voir. Il avait l'air d'un ange de Dieu, très redoutable, entre parenthèses, vénérable. Mais je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas donné son nom. » Nous parlons aujourd'hui du Seigneur, de l'Éternel, de son nom, des termes par lesquels il s'est révélé. Je lis à partir du verset 9. Et Dieu exauça la prière de Manoah, de sorte que l'ange de Dieu vint encore une fois vers la femme, alors qu'elle se trouvait justement dans les champs et que son mari Manoah n'était pas avec elle. La femme courut en toute hâte l'annoncer à son mari en disant, « L'homme qui était déjà venu me voir l'autre jour vient... » Vient de m'apparaître extérieurement sous la forme d'un homme, en apparence sous la forme d'un homme. Je poursuis la lecture du verset 11. Manoah se leva donc à la suite de sa femme, et quand il fut arrivé auprès de l'homme, il lui demanda, « Es-tu l'homme qui a fait la promesse à ma femme? » Il répondit, le verset 12, « Oui, je le suis. » Oui, je le suis. Manoah demanda encore, « Si donc ta promesse s'accomplit, que doit-on observer à l'égard de l'enfant et qu'est-ce qu'il doit faire ?» Vous pouvez continuer à lire la suite des instructions sur ce qu'il fallait faire ont été données. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est simplement de montrer que le Seigneur Dieu s'est déjà révélé aux hommes sous une forme humaine dans l'Ancien Testament. Et l'on disait, un homme, et elle disait, un homme est venu à moi. Maintenant, je lis à partir du verset 15. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, vous voyez, l'ange est subitement l'ange éternel. Nous voudrions te garder plus longtemps avec nous, etc., etc. Maintenant, peut-être les dernières parties du verset 16 et 17, la dernière partie du verset 16 et ensuite du verset 17. « Offre-le en l'honneur de l'Éternel, car Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. » Alors Manoah demanda à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» Vous voyez de quoi il s'agit ? Comment ? Donc, quel est ton nom ? Moïse aussi avait demandé, « Quel est ton nom, je veux pouvoir dire qui est celui qui m'a envoyé. Et ici est de nouveau cette question, quel est ton nom? Verset 18, il est écrit, mais l'ange de l'Éternel lui répondit, le verset 18, pourquoi demandes-tu mon nom qui est mystérieux? D'autres traductions disent, qui est merveilleux. Il est les deux à la fois. Il est merveilleux. Il est mystérieux. Il est conseil, puissance, Père éternel, Prince de la paix. Notre Seigneur est beaucoup de choses. Il est tout en tous. À chaque fois que nous lisons le terme « Je suis » dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, nous avons toujours affaire au même Seigneur. Au même Seigneur qui, dans l'Ancien Testament, se révélait déjà sous forme humaine dans son corps spirituel. Dans le Nouveau Testament, le même dans la chair, dans son corps de chair. Regardez comment c'est résumé au verset 21 et 22. Jude 13, verset 21 et 22. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme, mais Manoah avait reconnu que c'était l'ange de l'Éternel et dit à sa femme, « Nous devons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » De Jacob, il est dit qu'il a lutté avec Dieu, combattu avec Dieu. Il a combattu avec l'ange qui lui a même donné un coup de poing sur la hanche qu'il a fait boiter. Dieu est un Dieu personnel, un Dieu qui se révèle. Même si personne, comme le dit l'évangile de Jean au premier chapitre, même si personne dans sa plénitude originelle ne l'a vu, il y a malgré tout des hommes depuis le jardin d'Éden qui ont vu le Seigneur Dieu sous cette forme dans laquelle il a apparu dans tout l'Ancien Testament. Allons à Ésaïe 44. Je voudrais vraiment que nous reconnaissions par la révélation en raison de la parole de Dieu que le Yahvé de l'Ancien Testament est Jésus dans le Nouveau Testament. Le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Ésaïe 44, du verset 6 au verset 8. Ainsi a parlé l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis. Je suis, remarquez cette expression, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Et qui est comme moi, qu'il s'avance et qu'il s'écrie, qu'il fasse connaître, qu'il m'expose. Personne ne vint, personne ne se présenta, personne ne s'est présenté. Mais le défi a été lancé. Et puis, il y a la suite, la moitié du verset 7, la deuxième partie, qui a annoncé les choses à venir depuis les temps anciens et ce qui doit encore arriver. Qui l'annonce donc? Ici aussi, un défi est à nouveau donné. Le verset 8, ne vous épouvantez pas, ne vous découragez pas. Ne te l'ai-je pas déjà fait entendre? Ne l'ai-je pas annoncé? Afin que vous soyez mes témoins. Y a-t-il un Dieu en dehors de moi? Non. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Le Seigneur Dieu pose la question. Et je suis reconnaissant qu'il y ait aussi répondu lui-même. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour répondre aux questions divines. Le Seigneur peut parler pour lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un se manifeste et dise ensuite quelque chose. Celui qui dit et ne dit pas ce que Dieu a dit se trompe de toute façon. Ésaïe 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24 jusqu'au verset 26. Ainsi a parlé l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès ta naissance. Je suis l'Éternel qui opère toutes choses, qui a étendu les cieux, moi seul, qui ai étendu la terre, qui était avec moi. Personne ne s'est encore de nouveau ici manifesté, n'est-ce pas, et répondu. Celui qui contrecarre, le verset 25, les signes miraculeux des bavards, qui fait passer les divins, les devins pour des insensés, qui fait partir les sages en les couvrant de honte, qui fait passer leur science pour de la folie. Voici le glorieux qui arrive. Le verset 26. La chose glorieuse qui arrive. Qui réalise la parole de ses serviteurs, qui accomplit le dessein annoncé par ses messagers. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et spécialement là où l'on croit, comme le dit l'Écriture. Bien-aimés frères et sœurs, puisse-t-il nous arriver une fois d'être vraiment touchés par cela, que Dieu veuille se révéler là dans sa puissance, là où il s'est déjà manifesté tel qu'il est. Ce n'est que là où la véritable révélation de Jésus-Christ est offerte, est accordée par l'Esprit et par la parole. C'est là que la condition est donnée, que le même Dieu se manifeste dans sa puissance et confirme sa parole. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si sa parole est en nous, alors il veille sur nous et sur la parole que nous portons pour la confirmer. Si quelqu'un ne porte pas sa parole dans son cœur et que la révélation de Dieu par l'Esprit n'est pas là, il n'y a pas non plus de vie. Il n'y a pas non plus la vie de Dieu en lui. Il y a une activité religieuse seulement, mais pas de révélation de la puissance de Dieu. Comprenons aujourd'hui que Dieu poursuit un but élevé avec cela. Qu'il s'est révélé à nous comme celui qui est. Donc, en tant que le je suis. Et que nous pouvons simplement ramener toutes les désignations de nom à cette désignation originelle. Je suis celui, je suis le je suis. Qu'il soit l'Éternel des armées, Seigneur des armées, Seigneur Sébaoth, quel qu'il soit, il est le je suis, toujours présent. Il peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Dans sa révélation, d'une manière ou d'une autre, mais il reste toujours le même de toute éternité. Si nous avons reconnu ça par la foi et par la révélation, et que cela nous a été accordé, alors il faut que la puissance de Dieu soit manifestée. la puissance de son nom, la puissance de sa parole, puissance, la puissance créatrice et rédemptrice de Dieu doit être révélée là où les hommes ont fait l'expérience de la révélation de Jésus-Christ et de la révélation de la volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Je crois pouvoir dire que le temps dans lequel nous vivons est un temps de préparation afin que le Seigneur ne se contente pas de tel que c'est écrit, Dieu est bien connu en Juda, mais Dieu est bien connu dans l'Église des premiers-nés. Dieu est bien connu dans l'Église revenue à la parole. Il n'est pas pour nous un étranger. Il s'est révélé à nous dans une grande grâce. Laissez-moi lire Ésaïe 45, versets 5 et 6. Ésaïe 45, versets 5 et 6. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre hors moi. Il n'y a point de hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que des révélations de Dieu au ciel. Dieu est notre Père. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et Jésus dit, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du monde. Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Nous n'avons pas besoin de demander comment Dieu s'appelle. Nous savons comment il s'appelle. Quand parfois on parle spécialement avec cette direction de foi qui, en 1914, a attendu le retour du Seigneur. Alors, il demande tout de suite, mais quel est le nom de Dieu? Alors, il retourne à l'Ancien Testament, comme si Dieu n'avait pas encore fait de Nouveau Testament, comme si une nouvelle alliance n'avait pas encore été conclue. Ils n'ont pas compris que le Yahvé, Yahshua, est devenu Yahshua. Que Yahvé est devenu Yahshua. Ça, c'est la forme hébraïque qui a ensuite été modifiée en Yahshua et il est clairement écrit Yahvé Sauveur. À quoi cela sert-il aux hommes de s'en tenir à l'ancien test, à l'ancienne alliance et à ne pas voir la révélation de Dieu en Christ? Aujourd'hui, c'est mon devoir, mon privilège de vous montrer le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Chaque fois, que ce soit sous la forme de Yahvé ou sous la forme grecque, c'est Jésus, il est toujours resté le « je suis » dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il est toujours resté le même, le « je suis ». Même si dans l'Ancien Testament, son nom était Yahvé et que dans le Nouveau Testament, ici, c'est Yahshua. Comme nous le savons tous, Jésus, il est resté malgré tout le même, c'est-à-dire le « je suis ». Dans l'Ancien Testament, dans le corps spirituel, sous la forme d'un homme, comme ange de l'Éternel, et dans le Nouveau Testament, comme fils de Dieu, révélé, manifesté dans la chair, mais le même, Emmanuel, Dieu avec nous, auparavant, Dieu au-dessus de nous, puis Dieu avec nous. Et depuis la Pentecôte, Dieu en nous, le même, par le Saint-Esprit. Toujours un seul et même Dieu. Je voudrais me précipiter dans le Nouveau Testament. L'Évangile selon Jean, c'est tout simplement l'Évangile qui ne commence pas par le registre, par la généalogie, pas avec Bethléem, mais qui prend son envol dès le premier verset et nous montre qui est vraiment Jésus-Christ. Je lis le verset 21 du... Donc, Jean 6, verset 21. Jean 6, verset 21. C'est moi, en allemand. Je suis. N'ayez pas peur. Nous allons encore lire plusieurs passages glorieux et j'espère que la joie et l'enthousiasme nous envahiront tous, viendront sur nous tous. En effet, lorsque nous chantons, tu t'es révélé à moi, ô Seigneur, dans une grande grâce et miséricorde, nous savons ce que nous exprimons là. Je suis, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Jean 6, verset 48. Je suis le pain de la vie. Au verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis. Je suis le je suis. Jean chapitre 8, verset 12. Alors Jésus leur parla de nouveau, disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez mourir dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je le suis, vous allez mourir dans vos péchés. Selon la langue, en anglais, c'est écrit dans l'ordre inverse, I am, je suis. Et c'est pour des raisons grammaticales. Si vous ne croyez pas que je le suis, il est le je suis et nous le croyons. Et parce que nous le croyons, nous ne sommes pas non plus restés dans le péché de l'incrédulité, mais nous croyons que Dieu s'est révélé en Christ. Et celui qui ne peut pas croire que Dieu ne peut pas croire que Dieu se soit révélé en Christ, celui-là mourra dans le péché d'incrédulité. Car il ne s'agit pas seulement d'une foi dite chrétienne, comme on le dit, ou d'une croyance d'une dénomination. Qu'a dit Jésus ? Dans Jean 7, verset 36 jusqu'au verset 38. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son corps. Je continue à lire dans le même chapitre, chapitre 8, maintenant le verset 28. Jean 8, verset 28. Puis, Jésus poursuivit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que je le suis. Avez-vous tous bien lu? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que je le suis. Nous continuons à lire Jean 8, versets 55 et 58. Alors les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu veux avoir vu Abraham. Jean 8, verset 57. Maintenant le verset 58. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Yahvé est devenu Jésus. Le même, je suis, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On peut le prouver historiquement, dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'Église, pardon. Lorsque la prédication est sortie du sol juif et fut transférée sur le sol grec, le détachement de ce que Dieu avait confié et révélé à son peuple s'est produit. Alors la pensée philosophique est entrée dans la prédication. Remercié soit Dieu de nous permettre de croire, comme dit l'Écriture. Nous lisons encore rapidement quelques passages concernant le « Je suis » dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 10, l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 7. Alors Jésus leur dit de nouveau, Jean 10, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis. Je suis la porte pour les brebis. Je suis le bon berger. Jean 10, verset 11. Maintenant, le verset 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Combien de fois l'avons-nous dit? Seul celui qui connaît Dieu a été connu par Dieu. Et notre Seigneur dit, personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. C'est la révélation de A à Z. Et sans révélation, rien ne va vraiment dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il y a toujours cette reconnaissance qui monte en nous. Ô Seigneur, tu t'es révélé à moi. Tu t'es fait connaître à moi. Je n'ai pas besoin de deviner ni de... Ce n'est pas pour moi une énigme, je sais qui tu es, c'est-à-dire le je suis. Que ce soit comme je l'ai déjà dit toujours, le même, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Toujours le même et le seul Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, nous lisons maintenant au verset 36. Jean 10, 36. Comment pouvez-vous donc accuser de blasphème celui que le Père a consacré et qu'il a envoyé dans le monde? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Il pouvait dire, je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le pain de la vie. Le pain vivant. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il est le je suis. Et en lui, tout nous a été donné par Dieu. Celui qui veut voir Dieu doit regarder Jésus. Celui qui veut entendre Dieu doit écouter ce qu'il a dit. Je lis Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Verset 25. Jésus lui répondit, Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il l'a prouvé au tombeau de Lazare que il est la résurrection et la vie. Il est ta vie. Il est ma vie. Nous sommes ressuscité avec le Christ pour une vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie, pour une vie nouvelle. Nous avons été crucifiés avec lui, enterrés, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour marcher avec lui dans une vie nouvelle par la grâce et la puissance de Dieu. Sa vie qui se manifeste en nous. Jean 15, également une parole glorieuse. Verset 1. Je suis le vrai cep. On pourrait demander, qu'est-ce qu'il n'est pas? Il est tout en tous. Il est notre rédempteur, notre sauveur, notre Seigneur. Il est l'agneau de Dieu. Il est le médiateur. Il est l'avocat, il est le roi, le sacrificateur, le prophète, il est tout. Comme nous pouvons être reconnaissants de voir cela par révélation, pas seulement parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que Dieu nous l'a révélé. Dans Jean 18, se trouve l'un des passages les plus puissants du Nouveau Testament, qui nous montre l'impact quand le Seigneur se présente en se présentant comme celui qui est le Je suis, celui qui est le Je suis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 4. Or, bien que Jésus sut tout ce qui allait venir sur lui, il sortit du jardin et leur demanda, « Qui cherchez-vous ? » Donc, Jean 18, verset 4, maintenant verset 5. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et il leur dit, « C'est moi. » En allemand, « Je suis. » Dans d'autres traductions, « Je suis. » « Je suis. » D'autres traductions, dit Frère Franck. Et Judas, son traître, se tenait aussi avec eux. Quand Jésus leur eut dit, « Je suis. » C'est moi, donc. « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Au moment où celui qui est le « Je suis » parla, ils tombèrent à terre. La puissance de Dieu se manifesta. On sentait qu'il y avait plus derrière cette enveloppe humaine. Dans l'Ancien Testament, la femme de Manoa a dit, « Un homme m'a parlé, viens et vois. » Sous la forme d'un homme, voici notre Seigneur ici, l'Éternel, mais sous forme humaine, il mangeait et buvait. Il dormait et était fatigué. Il pleurait et priait. Ça, c'était l'homme, le Christ Jésus. Selon la chair, selon l'apparence, selon l'extérieur, il était homme pour l'amour des hommes. Mais à l'intérieur, selon l'esprit, il était Dieu afin de pouvoir nous ramener, nous les hommes, à la condition divine. Je lis encore les versets 7 et 8. De Jean 18. Alors il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que je le suis. » Il est le « Je suis ». Loué et exalté soit son Saint-Nom. Et il n'y a pas d'autre Dieu en dehors du Seigneur des armées, l'Éternel des armées, celui qui relie le champ en une forte forteresse est notre Dieu. Peut entendre que les hommes ont déjà eu dans le passé une révélation partielle de ce qui nous a été pleinement révélé aujourd'hui. Et bien aimés frères et sœurs, nous vivons effectivement à l'époque où ce ne sont pas des connaissances partielles ou des révélations partielles qui sont exposées d'une manière ou d'une autre. Non, mais nous vivons à l'époque de la révélation pleine et entière de Jésus-Christ, de la parole et de la volonté de Dieu. Ce qui est en partie et partiel aboutit à ce qui est parfait. Nous ne devinons ni ne conjecturons plus et faisons plus d'énigmes. Nous croyons au témoignage de toute l'Écriture sainte, celle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous y voyons et reconnaissons notre Seigneur. Je voudrais lire une autre parole, oui même deux, de l'Apocalypse. Et je suis sûr qu'elles nous iront droit au cœur. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Ici, c'est le ressuscité qui parle. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui peut oser nier ou remettre en question la divinité de Jésus-Christ face à de tels passages bibliques. Au verset 7, il est écrit, voici qu'il vient avec des nuées, les yeux de tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, verset 8. Dit le Seigneur Dieu. Pas un théologien, pas un professeur, mais c'est un ainsi dit le Seigneur. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans la brochure Le Retour de Christ, nous avons exposé, il y a différentes venues. Mais il y a le jour, le moment, l'heure, le moment où il reviendra, non pas pour prendre l'épouse, là il viendra alors comme l'époux. À cette occasion, les genoux ne fléchiront pas encore. Et alors, toutes les langues ne confesseront pas encore. Mais après les noces, quand tu seras sur le point d'entrer dans son règne, alors il ne viendra pas en tant qu'époux, mais en tant que le roi des rois, en tant que le seigneur des seigneurs, avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors, tous ceux qui l'auront transpercé le verront. Juifs et païens, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur le premier-né. Comme il disait, oh, je le suis. Comme cela me réjouit au plus profond de mon cœur quand il dit, je suis. L'alpha et l'oméga, que c'est le même Seigneur, le Logos, la parole qui au commencement est sortie de la plénitude de Dieu. c'est le même qui a été entendu, qui était à entendre, à être entendu en tant que celui qui parle, celui qui agit dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament, parlant et agissant. Je pense ici volontiers à l'expérience de notre bien-aimé frère Branham. Dieu s'est servi de lui pour nous ramener dans les limites divines. Dieu s'est servi de lui pour nous ramener dans les limites de la parole de Dieu, d'annoncer le jugement de la tour de Babel que Dieu a utilisé pour rapporter le message, pour dire, vous mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Pensez-vous que je saurais ce que je sais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de frère Branham? Pensez-vous qu'il y aurait eu un message de la fin des temps ou une révélation de la volonté de Dieu? Fouillez, sondez tous les séminaires à nouveau, allez de professeur en professeur et de théologien à des théologiens. Je l'ai volontairement formulé ainsi, car c'est ce que disait déjà un évangéliste connu. Si, j'ai peut-être que ne dois-je pas répéter cette partie, car je n'ai pas tendance à prendre les choses à la légère. Je ne prends pas la deuxième partie. Je me sens rappelé intérieurement par l'esprit de ne pas être léger. Ce n'est pas à moi de le faire, mais il a dit que le mot théologien devrait être écrit à part, ou du moins avec un trait d'union, si c'est le cas, à savoir théologue. Donc c'est un jeu de mots que Frère Fangfer, logue, veut dire aussi en allemand, menteur. Donc ça voudrait dire la science du mensonge. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont menti et qui mentent encore aujourd'hui. Et s'ils n'annoncent pas ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé, c'est encore le cas aujourd'hui, ce sont des menteurs. Mais les prophètes ont parlé de la part de Dieu, au nom du Seigneur, poussé par lui. Je l'ai vraiment entendu sur l'enregistrement. Lorsque frère Branham a raconté son expérience, il est allé dans les montagnes pour adorer, pour être seul avec Dieu. Et tout à coup, trois arcs-en-ciel se sont levés vers le ciel depuis l'arrière de la montagne. Et il a immédiatement retiré son chapeau et s'est arrêté avec respect, regardant ces trois immenses arcs-en-ciel se lever dans le ciel. Puis, il voit comment ces trois-là se fondent en un seul arc-en-ciel géant. Et alors, la voix puissante du Seigneur retentit à tel point que la montagne s'est ébranlée. Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament. Il tomba sur sa face et dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as encore confirmé de cette manière, ce que j'ai cru et prêché. Quelle grâce que Dieu ait eu un homme comme Moïse, comme Élie, comme Paul, comme Jean-Baptiste, des hommes envoyés par Dieu qui ont annoncé en accord avec tout ce que les autres prophètes et les hommes envoyés par Dieu ont annoncé. C'est ce qu'ils ont annoncé aussi. Et ils ont fait l'expérience de Dieu et avec Dieu de la même manière. Le plus glorieux sera certainement dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, Apocalypse 22. Apocalypse 22, laissez-moi lire ici du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet l'injustice continue à la commettre, et que celui qui est souillé de faute continue à se souiller, mais que le juste aussi continue à pratiquer la justice, et que le saint continue à se sanctifier. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis, alléluia, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Avant lui, personne n'a été. Après lui, personne ne sera. En lui, tout a sa raison d'être, à son existence. Et c'est par lui et pour lui que tout a été créé. Il est la tête de l'Église. Celui qui devrait avoir la primauté à tout égard. Être le premier, nous aimerions vraiment donner la première place à notre Seigneur qui s'est révélé à nous de manière si gracieuse et dire, Seigneur, nous voici. Prends-nous comme des vases faibles, comme des vases terrestres, des vases de terre, mais remplis-nous d'un contenu divin, d'une vie divine. Cela aussi, je l'ai déjà dit, on peut prendre un vase d'or. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on y met. De quoi ce vase d'or est rempli. Nous sommes parfois vraiment des vases misérables, mais cela a plu à Dieu de nous regarder dans notre humilité pour remplir ces vases d'un contenu glorieux, d'un contenu divin, d'une vie divine, d'une révélation divine. Et nous ne nous élevons pas ensuite, non. Mais regardez dans votre pays, l'Europe et dans le monde entier. Où y a-t-il des gens qui ont entendu la vérité, qui ont été pénétrés par la vérité, qui ont été libérés de l'erreur des erreurs par la vérité? Où les trouve-t-on? Il y en a beaucoup qui prêchent à haute voix partout, qui prennent par exemple une écriture ou bien un verset, comme par exemple celui que nous avons lu tout à l'heure, Jean 8, verset 12. Si quelqu'un me suit, dit Jésus, il marchera pas dans les ténèbres, il ne restera pas dans les ténèbres. Et ces gens qui font sortir la parole de leur bouche à haute voix sont eux-mêmes dans l'erreur, sont dans les ténèbres et rejettent le mandat divin d'un homme de Dieu qui avait pour tâche dans leur époque de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Je n'en ai pas honte. Je m'en réjouis. Oui. Que Dieu m'ait donné le privilège d'entendre moi-même cet homme envoyé par Dieu, de le voir moi-même, de le serrer moi-même, même dans mes bras, et de le saluer, de manger à la même table avec lui, de rouler dans la même voiture avec lui, et d'avoir été en communion avec lui. Mais ce n'est pas tout. Je suis reconnaissant à Dieu de ne pas avoir connu et aimé un tel homme de Dieu uniquement d'un point de vue terrestre, mais d'avoir reconnu ce que Dieu a fait à travers lui. Le mandat divin, l'envoi divin, le sens et but de ce mandat divin, je voudrais dire qu'en tout amour et en toute humilité, et cela en tout amour et en toute humilité, et pourtant avec tout le sérieux possible. Celui qui rejette l'homme qui devait apporter le message divin n'aura pas accès au message qu'il apportait. Ce n'est pas possible. Si je rejette Paul, que vais-je encore faire de ces épîtres? Il faut respecter les décisions de Dieu, la décision de Dieu. Et c'était une décision de Dieu. Alors que cet humble homme avait 7 ans et qu'il portait de l'eau, à l'époque c'était encore qu'il ramenait de l'eau, donc qu'il était allé chercher avec un seau du puits et qu'il remontait et qu'il passait sous l'arbre d'un peuplier imposant. Soudain, comme un vent au sommet de l'arbre. Et à 7 ans, nous pouvons bien nous imaginer qu'on peut avoir été un peu effrayé. Car sinon, il n'y avait même pas de vent. Ainsi, à cette époque de l'année. Et tout d'un coup, la voix du sommet de l'arbre s'est fait entendre. Ne fume pas, ne bois pas et ne souille pas ton corps de quelque manière que ce soit. Car quand tu seras plus âgé, il y aura une œuvre à faire pour toi. Nous avons lu au sujet de Samson. Il était un homme consacré à Dieu dès le ventre de sa mère pour une tâche. Il y en a été de même avec frère Branham. Lisez Galates 1 concernant Paul. Quand il plut à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère de manifester son fils en moi. Un envoi divin ne commence pas n'importe quand. Il a déjà commencé lorsque Dieu l'a lancé, mais ensuite vient l'installation, d'être établi dans le ministère et vient le moment où l'exécution de la tâche à laquelle Dieu a appelé et convoqué les individus commence. Les hommes de Dieu commencent. Bien-aimés, vous le pouvez tous. Vous pouvez reconnaître avec des yeux oints et croyants, avec un cœur ouvert et croyant, que c'est toujours le même Je suis, le Je suis. Qu'il s'appelle Yahvé, qu'il s'appelle Jésus, qu'il se manifeste dans le corps spirituel ou dans le but de la rédemption pour pouvoir souffrir et mourir dans le corps de chair. C'est toujours le même Je suis, le même hier, aujourd'hui et le même dans toute éternité. Pour que tous ceux pour qui ce sujet est encore un peu nouveau le sachent, laissez-moi vous le lire dans Hébreux chapitre 1. Parce que c'est là que l'Ancien Testament est cité. Et pourtant, nous le trouvons dans le Nouveau. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 10. Et encore, au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils passeront, mais toi tu demeures. Et ils vieilliront tous comme un vêtement. Comme un manteau, tu les rouleras. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Mais toi, tu restes le même et tes années n'auront pas de fin. N'auront pas de fin. N'est-ce pas merveilleux d'avoir ainsi l'Ancien et le Nouveau Testament réunis, résumés? Le psaume 102, versets 26 à 28, est ici repris d'une manière si merveilleuse dans Hébreux 1. Toi, ô Seigneur, qui est le Seigneur? Personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il est le Seigneur. Toi, ô Seigneur, tu as fondé la terre. Au commencement, tu as fondé la terre, ô Seigneur, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils passeront, mais toi, tu demeures. Tu restes le même. Malachie 3, verset 6, je suis Dieu, je ne change pas. Hébreu 13, verset 8, Jésus-Christ, le même, hier, le même, aujourd'hui, et le même pour l'éternité. Pouvons-nous chanter avec un cœur sincère? Tu t'es révélé à moi. Nous pouvons alors témoigner du fond du cœur. Nous t'avons reconnu, nous t'avons connu, nous t'avons reconnu. Dis-nous qui tu es. Jésus demanda alors, que disent les hommes que je suis? Les réponses étaient très diverses. Puis vint la réponse qui allait au fond des choses. Puis notre Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Dieu était dans le ciel, Dieu était en Christ. Quelle merveille de savoir que Dieu est esprit et que comme nous l'avons déjà dit, il peut être présent partout et toujours au même moment. Et qu'il est aussi présent, lui, le Dieu vivant. Celui qui est devenu notre sauveur en Jésus-Christ. À lui soit la louange, la gloire et l'adoration. Cette révélation de Jésus-Christ et la connaissance de la volonté de Dieu par la parole de Dieu liée à cette révélation de Jésus-Christ ont été nécessaires pour préparer un reste pour la tâche finale afin que Dieu puisse encore une fois manifester sa puissance et sa gloire. Et la gloire, à la fin, sera encore plus grande que celle du commencement. Car c'est ainsi que le Seigneur dit dans Hébreu, en se référant à l'Ancien Testament, je n'ébranlerai pas seulement là, le ciel, mais aussi le ciel et la terre. Et la terre. Dieu ébranlera. Encore une fois, il remuera encore une fois le ciel et la terre. Il bénira encore une fois. Il se manifestera encore une fois à son peuple comme le véritable, le vrai, le véridique. Et alors se fera la différence entre ceux qui auront cru selon les Écritures et ceux qui n'auront pas cru selon les Écritures. S'il vous plaît, croyez-le-moi. À la fin, cela aura valu la peine d'appartenir à la petite troupe méprisée. Et si l'on vous disait ils suivent un Branham ou bien un Franck, nous ne suivons ni un Branham ni un Franck. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons le témoignage de la parole de Dieu de A à Z. Le je suis. Et encore aujourd'hui, le je suis. Aujourd'hui, présent au milieu de nous pour confirmer sa parole, pour sauver les perdus. Je vous le dis, si vous pouvez croire que celui qui est le je suis est présent, alors déjà vous êtes aidé, car la foi est une révélation. Il y a des experts qui disent, oui, bien, que Frère Branham a dit que la foi est une révélation. Ensuite, il commence à parler de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la foi ni avec la révélation. La foi, comme le dit l'Écriture, est la révélation de Jésus-Christ, la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Le Seigneur nous ramène par grâce dans sa parole. Et nous pouvons croire, comme tous les prophètes et apôtres ont cru, ont annoncé, et nous pouvons expérimenter ce qu'ils ont expérimenté. Pouvez-vous le croire? Que Dieu le fera? Il l'a promis. Il le fera. Loué et exalté soit son nom. Amen. Levons-nous. Dieu Tout-Puissant, Nous te remercions. Nous t'adorons. Jean pleura parce que personne n'était digne de prendre le livre et d'en défaire les sceaux. Nous non plus, nous ne sommes pas dignes et ne méritons pas de prendre le livre saint, la Bible, entre nos mains. Car tu es saint, ta parole est sainte, et nous sommes un peuple aux lèvres impures, et nous habitons parmi des hommes aux lèvres impures. Seigneur bien-aimé, souvent des taches et des rides sont apparues sur notre vêtement. Nous te prions maintenant ensemble. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus, dans la grâce du fleuve qui purifie. Ô agneau de Dieu, à toi soit la reconnaissance pour Golgotha. Tu dis, je suis le bon berger. Je donne ma vie, je laisse ma vie pour les brebis. Seigneur bien-aimé, tu l'as fait. Nous te remercions pour cela. Et toi seul en étais digne en mars 1963 d'ouvrir le livre scellé comme tu l'as annoncé et dit à notre bien-aimé frère Branham depuis la nuée surnaturelle. Retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les sept sceaux est arrivé. Seigneur bien-aimé, comme tu l'as annoncé, c'est le 28 février de cette même année. C'est donc ce qui s'est passé. Grand Dieu, les mots nous manquent pour dire merci et exprimer ce que nous ressentons. Tu nous as reconnus. Tu nous as connus et nous avons la grâce de te connaître. Tu nous as attirés à toi, cherchés et trouvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as pardonnés. Et tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as fait reconnaître le temps et l'heure dans lesquels nous vivons. Message et messager, nous avons pu les voir et les entendre. Et en vérité, voici le jour que tu as fait. L'heure à laquelle de nombreux prophètes et apôtres auraient aimé vivre. Tu nous as accordé ce privilège. Sauveur bien-aimé, avec foi, je te le demande maintenant. Enlève de nous tout ce qui te fait obstacle, même toutes les maladies infantiles, les maladies d'enfants. Enlève vraiment ce qui est encore enfantin de nous tous, ce qui trouble l'atmosphère, tout ce qui pourrait être une entrave. Ô Seigneur, circoncis-nous le cœur, les oreilles, les lèvres. Purifie-nous de part en part entière. Fais de nous une bénédiction pour les autres. Je te remercie aussi pour l'observation de la parole. Aujourd'hui, nous savons qui tu es. Et nous savons qui a parlé avec nous. Ô grand Dieu, l'adoration et gloire soient apportées à ton nom. Nous te remercions encore une fois pour le sang précieux et saint de la nouvelle alliance. Nous te remercions pour le salut total, la rédemption, le pardon, la délivrance, la guérison, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'achèvement, la perfection, lors de la lors du changement de nos corps. Nous te remercions d'avoir commencé ton œuvre et tu l'achèveras pour le jour de ton retour. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs. Seigneur bien-aimé, que cela te plaise d'entamer le dernier tour de piste très bientôt. Sois alors, s'il te plaît, avec nous comme tu as été avec nos pères, comme tu as été avec Moïse, avec Élie, avec Paul, avec frère Branham. Que tu puisses être avec nous ainsi, pour que les hommes ne doivent, pour que les hommes n'aient plus à demander, mais où est votre Dieu? Mais qu'ils puissent dire vraiment Dieu est au milieu de vous, est au milieu de vous. Seigneur, bien-aimé, tu as déjà fait les préparatifs. Et maintenant, nous te demandons seulement de nous permettre de tout comprendre, d'y répondre intérieurement et de te donner ainsi la possibilité de te révéler, de te manifester vraiment comme celui qui est le Je suis, comme celui qui est présent. Sauve les perdus, guéris les malades, délivre ceux qui sont liés. Oui, Seigneur, en ton glorieux nom de Jésus, nous pouvons dire, sur la base de la parole de Dieu, que les pécheurs sont sauvés, que les malades sont guéris, que les enchaînés sont libérés, car telle est la parole de la croix, de la victoire de Dieu en Christ à Golgotha. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.